Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Le consul ougandais, convoqué hier par le gouverneur du Nord Kivu pour avoir des explications sur la réouverture surprise des postes frontaliers de Bunagana et Ishasha avec l'Ouganda, le consul ougandais répond que le gouvernement de son pays se prononcera bientôt sur cette situation. Fusillade hier à l'aéroport international de Bangboka à Kisangani. Bilan 3 morts et 1 blessé. Un militaire de la garde républicaine faisant montre des troubles mentaux est à l'origine de ce drame. Selon des témoins, le trafic a été interrompu pendant quelques heures et le calme est revenu par la suite. Et puis, l'ONG internationale Bridgeway Foundation intensifie la sensibilisation des combattants des EDF à quitter la brousse dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. À ce jour, plus de 500 otages des EDF et 150 combattants sont déjà sortis de la brousse. Pour en parler, nous recevons Seko Mbikatondolo, chef de mission de cette ONG. Madame, Messieurs, bonjour. Après la réouverture surprise des postes frontaliers de Bunagana et Ishasha avec l'Ouganda, le consul ougandais et chef du bureau de liaison du Nord Kivu résident à Beni a été convoqué samedi par le gouverneur du Nord Kivu. Le général Évariste Kakule Somo voulait avoir des explications du gouvernement ougandais sur cette action jugée unilatérale sans concertation préalable avec les autorités congolaises. Selon le consul ougandais, le gouvernement de son pays se prononcera bientôt sur cette situation qui affole les réseaux sociaux. Isingoma Isimere Roy explique dans ses propos recueillis par Marc Marofimbo.
Comme un gouvernement officiel, il ne peut pas utiliser les réseaux sociaux comme un canal responsable de communication. Pour ce, qu'importe le nombre de messages que certains en ont cru, qu'importe le nombre de commentaires lus dans les réseaux sociaux, le temps va venir pour que les bonnes et vraies communications soient livrées pour faire la part des choses et mettre tout au clair. Raison pour laquelle je précise que dans les quelques heures qui viennent, le gouvernement ougandais va se prononcer officiellement dans une communication pour cette fin. Nous demandons à tous de la patience en attendant la sortie de cette déclaration qui va éclairer la zone d'ombre par rapport à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Comme je le sais bien, le gouvernement ougandais reconnaît et respecte le gouvernement congolais qui a son siège à Kinshasa et respecte aussi le gouvernement provincial du Nord Kivu, un gouvernement qui a son siège provisoire à Beni actuellement. Alors, tout ce qui n'est pas dans cette lignée n'est pas dans notre politique pratique et ne respecte pas notre mandat.
Rendons-nous dans la province de la Tchopo. Je vous l'ai dit dans les titres, une fusillade a éclaté hier samedi à l'aéroport international de Bangboka à Kisangani. Un militaire des forces spéciales de la garde républicaine est à l'origine de ce drame. Bilan, 3 morts et 1 blessé. À la suite de cet incident, l'aéroport a été fermé pendant quelques heures avant que le trafic ne reprenne. Jacques Moukonkole nous raconte.
Des sources concordantes déclarent que l'auteur de cette fusillade est un soldat des forces spéciales de la garde républicaine. Cet élément a fait montre des troubles mentaux. La veille, ses supérieurs l'ont mis au cachot après avoir constaté en lui des signes de dérèglement mental. Toujours selon nos sources, ce militaire a manifesté le besoin de se soulager. En sortant de son lieu de détention, il a pris une arme d'un des militaires en poste avant de tirer sur eux. Le chef de poste et le chef de peloton ont succombé sur le coup. Un autre militaire se trouvant sur les lieux est blessé. Immédiatement après cet incident, il a été neutralisé après avoir reçu une balle au pied, selon certains témoins. D'autres affirment plutôt qu'il s'est tiré lui-même une balle après avoir commis ce forfait. Cette situation a provoqué une panique dans les installations aéroportuaires. Afin de protéger les aéronefs, le trafic a été interrompu pendant environ 2 heures. Le calme étant revenu, les opérations ont repris normalement. Un activiste des droits de l'homme regrette qu'un procès ne puisse s'en suivre à cause de l'extinction de l'action publique avec la mort de l'auteur de ce drame. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, 4 civils, dont une femme, ont perdu la vie dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des EDF à Haute-Maber, située à près de 45 km du centre commercial de Komanda, territoire du Rumu. Des sources sur place rapportent qu'un autre habitant blessé par balle est pris en charge dans une structure médicale proche. Jusqu'à ce matin, des militaires des FARDC présents dans la zone repoussaient ces rebelles qui sont en débandade à la suite des opérations militaires conjointes menées par l'armée congolaise et ougandaise. Ces tueries interviennent 3 jours après une autre attaque de ces mêmes rebelles survenue dans cette région et dont le bilan provisoire s'élève à 66 personnes tuées. Au Nord Kivu, le bureau de l'état civil de la chefferie de Bamaté à Mambasa Mavuno a été saccagé par les rebelles du M23 jeudi. C'est à une 60aine de kilomètres de Lubero au centre. Des sources sur place renseignent que toutes les archives et autres documents administratifs ont été incendiés par ces rebelles. Un notable de la place condamne cet acte qu'il qualifie de sabotage. Cet ancien député provincial estime que c'est dans le but de déstabiliser le pouvoir coutumier et faire disparaître l'histoire de la chefferie de Bamaté. Ezekane Ndoufou demande que l'autorité de l'État soit restaurée dans cette zone. Ce notable du territoire de Lubero est joint par Marc Maroufimbo.
Nous disons non à toute déstabilisation du pouvoir coutumier et la destruction des archives tendant à la falsification de l'histoire par les éléments du M23 dans les zones sous leur occupation. Il est vraiment aberrant de constater que ces éléments AFC M23, au-delà de la déstabilisation du pouvoir coutumier, ils s'érigent à destructeurs des archives dans les zones d'occupation dans le but de faire disparaître l'histoire. Même si la guerre s'est terminée aujourd'hui, certaines autorités seront en difficulté d'assumer leur rôle car n'ayant plus des infrastructures mais aussi d'archives. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement congolais, au même moment qu'il réfléchisse à mettre fin à la guerre, qu'il réfléchisse également à la construction des bureaux détruits par les éléments M23 une fois l'autorité de l'État rétablie dans ces zones.
L'actualité, c'est aussi la clôture vendredi dans la ville-province de Kinshasa d'un atelier sur la palabre nationale des Congolais. C'est une initiative qui vise à solliciter l'implication de tous les Congolais pour examiner souverainement tous les problèmes qui menacent la paix dans l'est de la RDC. Un des initiateurs est professeur des universités Ambroise Boulambo, président de l'ONG Catalico Action for Africa et l'invité de Radio Kapi. Il est au micro de Esther Ndalafina.
Nous voulons seulement sauver le seul pays qui nous reste, c'est la RDC. Notre but, à la différence des autres, c'est de chercher les solutions multisectorielles en vue de résoudre tous les problèmes et sauvegarder l'unité et l'existence de la RDC et de son peuple. C'est là notre spécificité. Notre problème, c'est un problème interne congolais. Et une fois nous sommes puissants, nous sommes organisés, nous sommes cohérents, nous sommes sûrs que personne d'autre qui viendra à nouveau se promener au Congo. Une autre spécificité est que les autres ont déjà un pacte social. Ils demandent aux Congolais de venir adhérer à leur pacte. Alors que nous n'avons pas de pacte. Nous avons proposé 5 thèmes principaux et avec le contenu à proposer aux Congolais pour que les Congolais enrichissent et à la fin qu'ils puissent adopter un nouveau contrat social donc sous forme de référendum pour que ça soit contraignant pour tout le monde, erga omnes, et à la fin aussi appliquer ça ensemble. Donc nous ne visons pas le partage du pouvoir, mais nous voulons par exemple soigner la bonne gouvernance, l'état de droit. Nous voulons soigner le développement durable, les ODD, les mises en œuvre. Nous voulons analyser l'éducation et la santé, la sécurité et la défense, soigner l'économie et les finances.
Au Maniema, ce sont les conseillers communaux de Kindu qui sont désormais outillés sur l'élaboration des projets de développement en faveur des communautés locales. Ils ont bénéficié d'une formation organisée ce week-end par le cadre de concertation permanent de la femme congolaise CAFCO. Placée sous le thème « Construire la démocratie au niveau de la base », ces assises visent non seulement à bien asseoir la démocratie au niveau de la base, mais également à bien préparer les participants aux prochaines élections des bourgmestres et conseillers municipaux. Florence Kizalunga, reportage.
Pour la vice-présidente de CAFCO Maniema, cette session de formation revêt d'une importance capitale car elle rappelle les responsabilités des uns des autres. Nyaluta la Thérèse.
Nous avons bien jugé à commencer à outiller les élus locaux pour une participation accrue aux élections des bourgmestres et adjoints ainsi que des conseillers urbains selon les prescrits de la loi. Deuxièmement, nous avons aussi renforcé les capacités des élus locaux en matière d'élaboration des projets de développement en faveur de la communauté locale.
Les participants ont bien apprécié les notions apprises et qui ont apporté plus de lumière sur plusieurs notions qu'ils ignoraient. Saleh Kandolo est conseiller de la commune de Kasuku.
Cette formation a été très bénéfique pour les élus de la ville de Kindu. On ne savait pas que nous, les élus, on pouvait élaborer des projets, mais avec CAFCO, nous avons su comment élaborer des projets pour le développement de nos communes respectives. En dehors de ça, pour les échéances prochaines des élections, CAFCO nous a outillé comment nous pouvons nous comporter comme des responsables et choisir utile.
Les participants ont émis le vœu de voir les autres structures organiser aussi les séances de formation en leur faveur. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Province de Tanganyika, le Parlement des jeunes de Moba publie un rapport détaillé du mois de juin couvrant les aspects sécuritaires, sociaux, sanitaires, environnementaux et infrastructurels. Dans ce rapport parvenu ce dimanche à Radio Kapi, cette structure note que le territoire de Moba fait face à plusieurs défis dans ses multiples domaines et précise que ce rapport s'inscrit dans une démarche citoyenne du Parlement des jeunes. Paulin Munanga nous fait le point.
Sur le plan sécuritaire, le Parlement des jeunes de Moba signale des cas de vol à main armée. C'est le cas notamment de 4 machines hors bord et 14 panneaux solaires emportés par des hommes armés. Il y a eu aussi d'autres attaques armées nocturnes. Cette structure note aussi des incendies criminels dans certains quartiers de Moba où des maisons sont parties en fumée. Parmi d'autres aspects sécuritaires, le Parlement des jeunes de Moba évoque des cas de justice populaire, d'enlèvement et d'agression. Sur le plan sanitaire, le Parlement des jeunes rappelle l'agression des 2 médecins par des militaires. Quant à l'aspect social, il révèle le chômage des jeunes et l'absence de formation professionnelle dans les territoires de Moba. À propos des infrastructures, cette structure des jeunes signale les délabrements avancés de plusieurs routes de desserte agricole. Dans les secteurs de l'environnement, il y a des inondations qui sont observées dans plusieurs quartiers de Moba. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
L'ONG Green World Solidarity, basée à Lubumbashi, s'est dit préoccupée par les dégâts tant matériels qu'humains que causent les éléphants en divagation dans le territoire de Manono. Il y a quelques jours, une fille de 18 ans a été tuée par un éléphant pendant qu'elle allait chercher de la braise. Pour le coordonnateur de cette structure, cette mort est de trop. Il se demande pourquoi l'État congolais, à travers l'Institut national pour la conservation de la nature, n'arrive toujours pas à trouver une solution définitive pour préserver ainsi les vies humaines. Omer Kabasele et joint par Jean Gandou.
Notre inquiétude, c'est la léthargie et l'approche des tâtonnements de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Comment voulez-vous que l'on comprenne que pendant près de 20 ans, que l'ICCN soit incapable de trouver des solutions adaptées et durables pour sécuriser les communautés riveraines du parc de Lupemba? C'est chaque année que l'on enregistre des décès liés à ces conflits communautés-éléphants. Et nous interpellons le gouvernement central à pouvoir prendre toutes ses responsabilités pour sécuriser ces communautés locales qui vivent autour des aires protégées de manière générale et des parcs de Lupemba en particulier, parce que ces pachydermes qu'on veut conserver pour plaire à la communauté internationale sont en train de tuer les communautés, sont en train d'appauvrir les communautés, parce que ces éléphants détruisent les cultures de ces communautés. Il y a un danger du point de vue alimentaire qui guette toutes ces communautés. Que le gouvernement prenne les choses en main pour qu'une solution urgente soit trouvée.
Actualité internationale.
Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Agence des droits de l'homme de l'ONU ont publié vendredi un rapport sur l'ampleur des exactions des gangs au-delà de la capitale Port-au-Prince. La période documentée s'étend d'octobre 2024 à juin 2025. L'escalade de la violence des gangs à l'extérieur de Port-au-Prince, où la présence de l'État est extrêmement limitée, a fait plus de 1000 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir depuis octobre 2024, a déclaré la porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
L'invité.
L'ONG internationale Bridgeway Foundation intensifie la sensibilisation des combattants des EDF à quitter la brousse dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Elle demande aussi aux communautés locales de collaborer avec les forces conjointes pour la neutralisation de ce groupe armé et accueillir les ex-otages et les ex-combattants. À ce jour, plus de 500 otages des EDF et 150 combattants sont déjà sortis de la brousse. Une délégation de cette organisation a échangé cette semaine à Bunia avec avec les acteurs de la société civile pour les impliquer dans cette démarche. C'est Kombi Katondolo, chef des missions de cette organisation, s'entretient à ce sujet avec Isaac Remoyope.
C'est Kombi Kitondole, bonjour.
Vous êtes à Bounia, vous avez rencontré certains acteurs pour parler de l'approche Soudia dans la neutralisation des ADF. Alors, à quoi vous faites allusion par là de l'approche Soudia?
Les opérations Soudia sont multidimensionnelles. Il y a la partie militaire, mais il y a aussi la partie psychologique qui est l'approche défection. Nous intervenons dans cette partie-là où nous sensibilisons les communautés sur la défection, arriver à sortir le maximum possible des combattants de ce groupe, et aussi sensibiliser la communauté à recevoir ces gens qui sont dans ces groupes-là. Tout simplement parce que, vous savez, l'ADF recrute de plusieurs manières, entre autres les kidnappings, les recrutements forcés. Il y a le recrutement par ruse. Ça veut dire que les gens, ils peuvent venir vous dire, bon voilà, nous allons vous trouver du travail et vous vous retrouvez dans la forêt. C'est comme ça qu'ils recrutent les gens. Alors il y a les gens qui se retrouvent dans ces groupes sans pour autant leur propre vouloir. Alors nous pensons qu'il y a la chance de sortir ces gens-là et que ces gens-là puissent avoir l'opportunité de rentrer dans la vie civile.
Quel bilan vous faites de cet aspect que j'appelle approche civile pour récupérer ceux qui ont fait défection dans ces groupes?
À ce jour, nous avons sorti plus de 500 ex-otages d'abord et plus de 150 ex-combattants qui sont rentrés dans leur communauté. Et cela après avoir été déradicalisés, pris en charge au niveau psychosomatique, parce que vous savez, la plupart des gens quittent la forêt en étant vraiment dans un état de santé très précaire et médiocre. Alors nous prenons d'abord en charge leur état physique, psychologique et somatique avant de travailler sur la déradicalisation, avant de les remettre dans leur communauté.
Toutes ces personnes-là sont déjà dans leurs familles respectives.
Aujourd'hui, nous avons réintégré tous ces gens-là dans leur communauté. Il y a certaines personnes qui sont allées à Kinshasa, d'autres à Kalemie, d'autres à Goma, d'autres à Boga, Tchabi, Mambasa, Beni, Butembo, Lubero. Voilà, nous avons tous réintégrés dans leur communauté.
Mais est-ce que ces personnes sont vraiment acceptées? Est-ce qu'il y a un travail de réinsertion que vous faites pour une meilleure cohabitation, pour qu'ils ne puissent pas être encore des espions dans leur communauté respective?
Le travail que nous le faisons avec le service spécialisé, donc le service de l'État, le sécuritaire spécialisé. C'est eux qui décident la personne qui doit rentrer dans la communauté et la personne qui doit aller devant la justice. Ce n'est pas l'occasion ici de donner des cadeaux à tous ceux-là qui ont tenu les armes, non. Ceux qui n'ont pas joué des rôles majeurs dans ces groupes, ils sont renvoyés dans la communauté. C'est là qu'ils ont joué un rôle majeur et ils sont envoyés devant la justice. Faisons d'abord en amont le travail de déradicalisation. Ça veut dire que tout simplement que ces gens-là ne peuvent plus adhérer à l'idéologie islamiste de l'ADF.
Vous avez rencontré certains acteurs, la société civile, ainsi que vous avez parlé de l'impact et des limites et aussi des perspectives d'avenir. À ce jour, quel bilan vous pouvez dresser dans les volets militaires? Est-ce que c'est une réussite ou bien un échec?
Côté militaire, en fait, c'est une réussite parce que vous verrez la partie territoire de Beni, tous les bastions traditionnels des ADF, ils sont pacifiés. La calmie est rentrée. Vous avez senti l'impact même au niveau économique. La culture de cacao, la récolte du moins, elle a été vraiment très bonne cette année en territoire de Beni. Malheureusement, les tueries continuent. Ça veut dire tout simplement que nous devons aussi multiplier des efforts, que ce soit au niveau militaire et aussi au niveau civil, pour arriver à mettre fin à ces fléaux que pratiquement l'État islamique en République démocratique du Congo.
Mais comment y mettre fin dans la mesure où certaines personnes pensent que ces opérations contribuent plutôt à éloigner ces ADF des frontières de l'Ouganda plutôt qu'à les neutraliser?
Aussi longtemps qu'il y a des tueries, la population ne comprendra pas le travail abattu. C'est ça la plus grande difficulté qu'il y a avec l'approche militaire. Nous, comme civils, nous basons beaucoup plus sur les indicateurs d'accalmie. Malheureusement, au niveau militaire, les indicateurs ne sont pas les mêmes. Aussi longtemps il y a des bastions, que ce soit proche de la frontière ou éloigné de la frontière ougandaise, les traques continueront. Et aussi, il faudrait comprendre que l'ADF, il évite les positions, que ce soit les positions des militaires, des opérations Soudia ou des positions FARDC. C'est pourquoi nous continuons à sensibiliser la population, à continuer à collaborer avec les services et aussi à accueillir les rendis. Parce que si nous avons les deux approches ensemble, on peut arriver à mettre fin à cet activisme de ces mouvements.
C'est Kombi Kitondole. Je rappelle que vous êtes le chef de mission de l'ONG Bridgeway Foundation. Je vous remercie.
Je vous en prie.
Notre invité répondait aux questions de Isaac Remoyope. Par ici s'achève ce journal coordonné par Jean Gandou. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.